Alors je vous invite ce soir à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean chapitre 11. Et ce soir nous allons voir la cinquième déclaration de Jésus où il se présente comme étant quelque chose. Je suis. Hein, on a vu je suis la manne, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger. Et ce soir, quelle déclaration Jésus va-t-il nous faire ? Alors, je ne vous la dis pas tout de suite. On va la découvrir, mais on va lire une bonne partie du chapitre 11 parce que cette déclaration fait partie de tout un contexte. Une histoire très étonnante. On va la lire et puis après, on va prendre justement le temps de relever quelques points de cette histoire. Jean, chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, qui est un village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, parce que Jésus était dans une autre région, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Ça, c'est le message que Jésus a entendu. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite, c'est-à-dire 2 jours après, il dit aux disciples, retournons en Judée. En Judée, c'est justement la région où ils habitaient. Continuons la lecture à partir du verset 11. Après ces paroles, Jésus dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Continuons à partir du verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, dans le tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à peu près 15 stades, c'est-à-dire à peu près 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » On ne sait pas vraiment si elle répond clairement à la question d'ailleurs. Hein. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mais mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent « Mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liées de bandages, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent tout ce que Jésus avait fait, sous-entendu, dans le but de le nuire. Amen. Une histoire riche enseignement. Mais on va surtout essayer de se plonger dans le contexte et de comprendre quel est le but de toute cette histoire. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'interrogations. Même les gens se disaient, mais comment se fait-il que lui qui est capable de rendre la vue, en gros, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose pour son ami ? Hein ? C'est ça la grande question que tout le monde se pose dans cette histoire. D'autant plus que, effectivement, Jésus maîtrise vraiment les moindres détails de cette histoire. On le lit plusieurs fois, du verset 1 au verset 4, et à chaque verset d'ailleurs de ce passage-là, on nous dit que Lazare est malade. Mais surtout, le passage nous dit plusieurs fois que Jésus aimait beaucoup cette famille. Beaucoup. On le lit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est clairement dit. Non pas seulement d'ailleurs de lui, mais même de l'équipe. Même de l'équipe. À un moment, il dit, Lazare, notre ami. C'est l'équipe. Quand je parle de l'équipe, c'est Jésus et puis les apôtres. En fait, tout le monde savait qu'il y avait véritablement une relation particulière entre Lazare, Marie, Marthe et Jésus. C'était pas seulement quelque chose qui s'établissait, parce qu'on sait que Jésus était rempli d'amour. Mais cette affection entre cette famille et Jésus était quelque chose même de connu, de reconnu. Les gens savaient. D'ailleurs, c'est le constat que font les gens. Regardez comme ils l'aimaient. Et pourtant, ce n'est pas la seule fois où Jésus est ému pour la foule ou pour des gens. Mais dans cette relation, c'était populaire, c'était connu qu'il y avait un attachement particulier entre Jésus et cette famille et Jésus et ses disciples. C'était une évidence connue de plusieurs. Pourtant, effectivement, il y a plusieurs points qui sont étonnants. Lazare est malade. Voilà comment commence l'histoire. Lazare est malade. On sait qu'il va ressusciter, ça on a déjà lu le texte. Il n'y a plus de suspense. Mais avant qu'il soit mort, Jésus, on ne lui a jamais dit, tu sais, Lazare est mort. On va le voir en lui disant, Lazare est malade. On lui a envoyé des messagers, parce que pendant ce temps-là, alors il faut un peu placer les choses dans leur contexte. Béthanie, là où habitaient Lazare, Marie et Marthe, elles étaient pas loin de Jérusalem, à peu près 3 km de Jérusalem. Mais là où était Jésus, c'est ce qu'on appelle dans la région de Bérée. C'est au-delà des montagnes, un peu plus loin du Jordan. C'est au minimum, parce que comme c'est toute une région, on ne sait pas exactement où ce qu'était, mais au minimum à 30 km et peut-être beaucoup plus. Donc en fait, on envoie des messagers. Et on dit à des gens, allez voir Jésus et dites-lui que Lazare est malade. Alors les gens sont partis. Et quand ils voient Jésus, ils lui adressent ce message. Tu sais, ton ami Lazare, il est malade. À votre avis, pourquoi lui faire cette annonce? Dans l'intention qu'il vienne. Et allons même plus loin. Effectivement, le but ultime, c'est que Jésus puisse le guérir. Mais est-ce que Jésus avait même besoin de se déplacer pour le guérir? Eh non! Rappelez-vous de cette histoire qu'on lit en Matthieu, chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur guérit. » Et Jésus a été étonné de la foi de cet homme. Il dit, « Rentre chez toi. » Et le serviteur était guéri. Donc Jésus n'avait même pas besoin forcément de se déplacer. Pourtant, Jésus ne fit rien. Il ne formule pas de prière. Il n'a pas l'air pressé. Il reste encore 2 jours. Non seulement il ne fit rien, mais en plus, à ses messagers qui sont là, il leur fait une déclaration. Il leur dit, oh bien c'est cas, cette maladie n'est point à la mort. Ah, là on est rassuré. Les messagers peuvent rentrer et rassurer Marthe et Marie, leur dire, tu sais ce que nous a dit Jésus? Jésus nous a dit que cette maladie n'est point pour la mort. Voilà une bonne nouvelle que les messagers peuvent apporter à Marthe et à Marie. Ainsi, les messagers retournent chez eux avec ce message. La maladie n'est point pour la mort. Non seulement ils ne prient pas, comme on l'a dit, mais il donne un message rassurant, mais on va voir que ça colle pas vraiment avec la réalité. Et vous allez voir comme vraiment, c'est vraiment bien organisé dans le planning de Jésus, mais très déstabilisant pour ceux qui vont vivre tout ça. Mais en plus, Jésus prend son temps. Jésus resta encore 2 jours. 2 jours. Vous allez voir comme ça, c'est très important. Pour finalement, après, dire à ses disciples, « Allez, on va y aller, parce que Lazare, vous inquiétez pas, il dort. » Lui, il dit qu'il dort. Les disciples se disent, « Bah, il est malade. » Jésus dit qu'il dort, il est peut-être dans une sorte de coma. Donc, tout va bien. Mais Jésus, quand il dit qu'il dort, on l'a lu. Il dit, « Non, non, quand je vous parle de là, que Lazare dort, il est mort. » Jésus savait que Lazare était déjà mort. Lorsque Jésus décide, 2 jours après, de dire à ses disciples, Bon, on va y aller.
Il sait que Lazare est mort. Il le sait, lui.
Mais Jésus, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faisons un petit point. Pour même se demander, mais quand est-ce qu'il est mort, ce Lazare? Et vous allez voir que Jésus a maîtrisé vraiment les moindres détails de cette histoire. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, entre la région là de Judée et la région de Bérée, certains commentateurs estiment qu'il faut environ 9 heures de marche. Difficile vraiment à définir. C'est vrai que c'est escarpé, etc. C'est au moins à 30 km. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on met au moins 2 jours. Effectivement, 2 jours de marche, parce qu'il y a les temps de pause, parce que c'est escarpé, parce qu'on ne peut pas, dans cette région, marcher entre midi et 2 sous le gros soleil. Donc effectivement, il y a une première tronçon de la route qui est faite dans une journée. Il faut se reposer et repartir le lendemain. Donc effectivement, il faut bien compter 2 jours de trajet. Donc, rappelons-nous un petit peu. L'histoire commence lorsque les messagers quittent Marthe et Marie. Et ils vont jusqu'à Jésus. Combien de jours? 2 jours. Eux, ils sont partis en disant « Lazare est malade ». Ils sont partis quand ils sont partis. Lazare était pas bien. Ils partent. Ils savent pas ce qui se passe, eux, pendant ce temps-là. Mais il est fort probable que ce soit pendant ce moment-là que Jésus n'était plus que malade, mais carrément agonisant. Lazare, pardonnez-moi. Le message est délivré à Jésus. Jésus leur dit « Vous inquiétez pas, cette maladie n'est pas pour la mort. » Et les disciples, enfin les messagers, retournent. Combien de temps? 2 jours. Exactement le temps où Jésus, lui, reste à sa place. Et là, c'est là qu'on comprend pourquoi Jésus est resté 2 jours. Et après ces 2 jours, il décide de partir. Et là, il met combien de temps? Encore 2 jours. Et quand il arrive, alors entre le moment où il part et le moment où il arrive, effectivement, il y a eu 4 jours entre le moment où il reçoit la nouvelle et le moment où il arrive. D'accord ? Les 2 jours d'avant, c'était pendant le trajet des messagers. Il reçoit le message, il reste 2 jours, il faut encore 2 jours. Et c'est là que, quand il arrive, et c'est là qu'on lit au verset 17, que effectivement Jésus constate, et les disciples constatent, qu'il est déjà mort et que ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Donc en fait, il est probablement mort un petit peu ou au moment de l'annonce et au moment où il était mort, effectivement, avec ses chaleurs fortes, il ne gardait pas longtemps les corps et le plus vite possible, il était embaumé et mis en tombeau. Donc Jésus a vraiment fait exprès. Non seulement il a fait exprès de laisser mourir Lazare, ben oui, parce qu'il aurait très bien pu d'où il était invoquer son père et guérir. Mais en plus, il a fait exprès de laisser les messagers arriver à bon port. De retourner auprès de Marthe et de Marie. Avec quel message? Cette maladie n'est pas pour la mort. À part que ça fait déjà 2 jours que Lazare était déjà mort. Comment recevoir un tel message? Comment comprendre ça? Mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? On t'appelle et tu ne pries pas? Et les messagers reviennent avec une fausse parole. Tu sais que cette maladie n'est pas pour la mort, mais nous, ça fait déjà 2 jours qu'on l'a mis au tombeau. Comprenez combien ça devait être perturbant pour Marthe, pour Marie. Déjà d'avoir perdu leur ami, de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'il est vraiment mort. Que Jésus ne soit pas venu tout de suite, au moins ça. Mais en plus, les messagers viennent avec une parole de Jésus qu'ils ne comprennent pas du tout et qui ne colle pas du tout à la réalité. Et voilà que Jésus arrive, lui, 2 jours après. Rien n'échappe à Jésus, mes bien-aimés. Ni dans cette histoire, ni dans nos histoires. La Bible nous dit clairement que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et jusqu'à la fin de notre jour, nous vivrons plein de situations que nous ne comprendrons pas. Des situations où nous aurons nos pourquoi. Des situations où on dit, mais comment ça se fait? Mais Seigneur, tu as dit. Tu as dit, mais la vérité. C'est pas ça? Et là, on se reconnaît, n'est-ce pas? C'est parce que cette histoire, c'est une véritable parabole vivante. Et devant ce genre de drame, alors on peut avoir plusieurs situations, on en a deux là sous les yeux. On peut être un peu comme Marie, qui elle était assise à la maison, dans sa mélancolie, dans sa réflexion, un peu à la part de tout ça. Un peu comme il nous arrive de temps en temps d'être tellement abattu que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de s'isoler, de rester dans nos pensées, de ne plus partager, peut-être même de se renfermer. Ou alors, comme Marthe, qui déjà était connue, comme on peut le lire en Luc chapitre 10, verset 41, déjà une femme plutôt active, et qui là aussi continuait, comme on l'a lu dans le texte, il y avait plusieurs juifs qui venaient pour consoler, et on voit que Marthe, c'est elle qui les accueillait. D'ailleurs, elle entend qu'il y a Jésus, c'est elle qui l'accueille. On sent qu'il y a deux approches complètement différentes, entre Marie qui aurait plutôt tendance à se mettre un peu dans son coin, à se laisser porter dans ses pensées, peut-être même dans ses rêves, dans ses interrogations, et Marthe qui, elle, au contraire, aurait plutôt tendance peut-être à essayer un peu de bouger pour oublier, pour éviter que de trop serrer ça dans son cœur, hein. Le monde nous invite à nous étourdir, à oublier, à passer. Mais n'empêche que l'une comme l'autre, même si physiquement et intellectuellement, elles ont l'air d'aborder et de vivre la situation de manière différente, de gérer les émotions de manière différente, toutes les deux ont la même interrogation au fond de leur esprit. C'est écrit au verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quand c'est Marie qui parle à Jésus, elle dit exactement la même chose au verset 32. Marie lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et en fait, la seule préoccupation qui est dans l'esprit de Marthe et de Marie, c'est de se dire, « Mais Seigneur, allez, parlons plus franchement. » Pourquoi tu n'as rien fait? Jésus, on t'a bien appelé? On t'a appelé? Oui? Et si tu avais répondu, on ne serait pas dans cette situation? Si tu étais intervenu, on ne serait pas dans les larmes? Si seulement tu avais été ici, mais on ne serait pas dans... Regarde! Regarde notre souffrance! Et qui va s'occuper de nous maintenant? Et regarde la circonstance, et la maison, qui va s'occuper de la payer? Oh, bien sûr, elles ne font pas de reproches aussi ouvertes. Bon, ce n'est pas la place de la femme de parler à un homme de cette manière. Je me remets dans le contexte. Et puis, elles ont quand même reconnu en Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Donc, quelque part, c'est pas seulement un homme, elles savent l'autorité, elles réalisent, hein, et Marc le dit bien, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, donc elles savent qu'elles ont vraiment affaire à l'envoyé de Dieu, mais quand même, on a beau savoir que Jésus est parfait, on a beau savoir que Jésus est Dieu, on a beau savoir, mais il y a quand même des interrogations, et ces interrogations sont légitimes. Pourquoi n'as-tu rien fait? Pourquoi n'as-tu pas agi? Pourquoi n'as-tu pas prié? Pourquoi? Mais si on va jusqu'au bout de leur raisonnement, peut-être qu'elles auraient pu se dire, on est pourtant tes amis, non? Tu vas aider les autres, tu vas aider les étrangers, tu vas aider ceux qui ne te connaissent pas, tu fais même des miracles pour ceux qui te rencontrent pour la première fois, et nous donc? Et nous donc? Ce Lazare que tu aimes, pourquoi est-ce que tu n'as rien fait? Si tu avais été là, si tu avais daigné venir jusqu'à nous. Et nous arrivons là au but que Jésus voulait. Verset 22. Marthe va dire à Jésus, mais maintenant, ok, si on reprend le verset 21, c'est Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais,
Et regardez bien les mots employés par Marthe. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais maintenant même, là, tout de suite, là, je sais que quoi que tu demandes, cela se passera.
Dites-moi, qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire?
Oui, tu n'étais pas là. Bon, mais je sais que là, maintenant, immédiatement, quoi que tu fasses,
je sais que ça va se réaliser. Qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête?
Elle attendait son miracle.
Elle attendait quelque chose et franchement, devant un mort... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'une résurrection, quoi.
Et savoir que Jésus allait le ressusciter.
Bah, oui. Ça ne peut être que l'explication. Parce que devant une telle situation, il n'y a plus que ça qu'à faire. Mais maintenant même, quoi que tu demandes, je sais que Dieu t'exaucera. Mais effectivement, elle a cette tournure de phrase qui permet aussi à Jésus de faire ce qu'il veut. Elle ne lui dit pas: oh Jésus, bon déjà là, t'es arrivé en retard, alors bon maintenant t'as plus qu'à le ressusciter. Non, elle ne s'adresse pas comme ça, mais sa tournure de phrase veut dire ça. Mais maintenant même. D'ailleurs, c'est le maintenant même qui donne de l'importance à cette situation-là. Ce maintenant même est en train de dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, Jésus. C'est maintenant. C'est vrai qu'il y a des circonstances où nos émotions et notre foi est mis par une épreuve. Il y a des circonstances où ce n'est pas seulement la foi qui est mise à l'épreuve, mais également nos émotions, nos ressentis. Et on est complètement perdu. Car foi et émotion, de temps en temps, sont très liées. Et de temps en temps, on a du mal à dissocier l'un de l'autre. Et de temps en temps, c'est sur les deux points qu'on est complètement déstabilisé. Et Marthe et Marie sont complètement déstabilisées dans les deux domaines. Jésus lui répondit: ton frère ressuscitera. Cette réponse de Jésus a un double sens. Un double sens, mais deux sens complètement différents. C'est une affirmation, ça c'est sûr. Mais dans ce « ton frère ressuscitera », il y a deux options. Soit je le délivre maintenant, soit je le ressuscite maintenant. Ou alors, il ressuscitera au dernier jour, comme on l'a appris, comme on le connaît dans la théologie. Les hommes et les femmes seront un jour présentés devant Dieu, ils seront jugés, et la parole de Dieu nous explique qu'un jour Dieu nous transformera nos corps semblables à celui des anges, et ce sera notre corps de résurrection. Donc effectivement, les juifs connaissaient déjà cet enseignement, il y aura une résurrection des justes. Amen. Et d'ailleurs, c'est bien de cette résurrection auquel pensait Marthe. Mais Jésus n'a pas répondu sur le même pied d'égalité que Marthe. Marthe disait: maintenant même, si tu demandes quelque chose, cela sera accordé. À part que Jésus, s'il voulait répondre dans la même lignée que Marthe, il aurait pu le dire: ne t'inquiète pas, maintenant je vais le ressusciter. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement: il ressuscitera. Et Marthe comprend que quand Jésus lui dit il ressuscitera, elle est en train de se dire: si Jésus ne me dit pas qu'il va ressusciter maintenant même, c'est que je dois comprendre que oui, Jésus me donne une parole de consolation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit: oui, je sais Jésus qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Marthe prend ça comme une parole de consolation quelque part. Et elle est en train de se dire: bon, Jésus n'a pas voulu prier. Jésus n'a pas voulu venir en temps et en heure.
Maintenant, je lui suggère de le ressusciter. Je comprends que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors Jésus, ah oui, je sais comment il est cet esprit de consolation, cet esprit de soutien. Il me dit que mon frère va ressusciter. Oui, oui, je sais, Jésus, je sais qu'il va ressusciter. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous encourage aussi à nous consoler de la perte de nos chairs en nous rappelant que nous les retrouvons dans la gloire céleste, dans la résurrection. C'est une consolation, même si ça ne rend pas le mort à la vie. Et Marthe est en train de comprendre la parole de Jésus comme étant une parole de consolation. Vous savez, c'est plus qu'une parole de consolation que Marthe entend. Parce que cette Marthe-là, elle est très courageuse. J'ai envie de nous dire que elle accepte de se laisser consoler par Jésus. Elle ne se rebiffe pas. Pardonnez-moi l'image un peu caricaturale, mais elle commence pas à se rouler par terre, elle commence pas à faire un caprice à Jésus, elle commence pas à hurler. Aaah! Jésus lui dit, il ressuscitera. Elle comprend que c'est pas pour tout de suite sa requête. Et tout de suite, elle dit, oui, je sais. Il va ressusciter. Elle accepte cette réalité-là. Elle accepte non seulement de se laisser consoler par cette parole, mais elle est en train de faire son deuil. Parce que, effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, elle n'avait pas encore vraiment renoncé à ce que Lazare soit mort. La preuve, c'est que si elle était en train de suggérer à Jésus, mais maintenant même, t'as qu'à demander quoi que ce soit, Dieu te le donnera. C'est que dans son cœur, elle n'avait pas encore accepté la mort de Lazare. Elle espérait bien qu'il vive encore. D'ailleurs, qu'est-ce qu'avait dit Jésus? Cette maladie n'est pas pour la mort. Donc tout ça, ça se bagarrait dans sa tête. Et là, en quelques échanges avec Jésus, elle comprend que Jésus n'est pas prêt à faire le miracle maintenant. Et elle, intérieurement, elle commence à faire son deuil. Elle commence à dire, ok, ouais, je le retrouverai au paradis. Elle accepte. Et il faut comprendre que dans ce moment-là, ce n'est pas seulement un échange de paroles, mais Marthe fait un effort incroyable. Elle est en train d'accepter, de se laisser consoler. Et elle est en train de faire le deuil de son espoir, le deuil de ses prières, le deuil de ses espérances, parce qu'elle espérait bien que Jésus fasse ce miracle-là. Et entrant en ce moment-là, c'est une femme qui est en train d'accepter de renoncer. Elle renonce. Elle est en train de capituler devant une parole de Jésus. Elle est en train de dire, ok, Seigneur. D'accord, tu ne veux pas me le ramener? Tu en décides autrement? Mais malgré tout, je continue à te louer. Parce que Jésus lui dit, mais je suis la résurrection, je suis la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Et elle est belle, la déclaration de Marthe. Parce que dans ces moments de renoncement, dans ce moment d'abandon, dans ce moment où elle perd son frère, dans ce moment où elle est dans l'incompréhension de ce que fait Jésus, de ses paroles, de ses actions, elle proclame encore cette phrase. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Alors qu'elle ne comprend pas, alors qu'elle est dans la souffrance, alors qu'elle est en train de renoncer à ce qui lui portait très à cœur, elle est encore capable de proclamer la grandeur de Jésus. Quelle force! Quand tout s'écroule émotionnellement, quand tout s'écroule dans notre foi, quand tout s'écroule dans nos calculs, dans nos raisonnements, quand Dieu fait complètement l'inverse de à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce que tu crois, Marthe? Elle n'est pas en train de lui dire, oui, tu sais, j'ai tout bien compris. Tout ce qu'elle est capable de dire, c'est, Seigneur, je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es celui qui est venu pour nous sauver. D'ailleurs, elle ne s'étale pas plus que ça. Elle va quitter Jésus à ce moment-là. Mais quel échange fort! Et permettez-moi de vous dire que cette femme est une force. J'ai rencontré malheureusement beaucoup ou plusieurs personnes qui ont abandonné Jésus par déception. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils demandaient. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté ce qu'ils demandaient. Parce que Jésus n'a pas été ce jour-là, à ce moment-là, dans cette période-là, celui qui a fait comme eux, ils voulaient. Est-ce que nous serions prêts à suivre Jésus, même dans nos déceptions, même dans nos désillusions, même dans nos incompréhensions? La question, il faut se la poser aujourd'hui. Parce que le chemin de Marthe et de Marie, nous y passons tous. C'est Jésus lui-même qui le dit. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même, à mourir à lui-même, il ne peut pas me suivre, il ne peut pas devenir mon disciple. Il y a cette part de renoncement, d'abandon, de ce qui paraît être le plus légitime, de ce qui paraît être le plus juste. Seigneur, mais c'est normal, non? Il n'est pas question de normalité. Il n'est pas parlé de légitimité. Il n'est pas question, il n'est pas un manque d'amour ni un manque de foi. Non, il y a véritablement l'amour, il y a véritablement la foi. Mais Marthe accepte encore que Jésus fasse ce qu'il veut, comme il veut. Et Jésus insiste. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Est-ce que tu crois à cela? Et c'est incroyable comme Jésus retourne la situation. Jésus retourne la situation. Marc était en train de réfléchir, d'être dans cette situation de doute, d'incompréhension. Elle qui se posait des questions, elle qui cherchait à comprendre, elle qui cherchait une solution, elle qui se disait mais peut-être que, gna 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 gna. Jésus, en une phrase, l'amène non pas à chercher des solutions, mais l'amène à s'interroger sur sa foi. Il l'amène à réfléchir non pas comment les circonstances peuvent changer, mais Marthe, est-ce que tu crois ça? Tu en es où dans ta foi? Tu en es où dans ce que tu crois? Tu en es où dans cette déclaration que je suis la vie? Est-ce que tu regardes aux morts? Ou est-ce que tu regardes à la vie? Est-ce que tu t'attaches à ton frère qui est mort? Ou est-ce que tu t'attaches à moi qui suis la vie? Est-ce que ton espoir et ta joie viennent de ton frère? Ou est-ce que tu crois que c'est moi qui peux te donner la vie dans ton cœur? Crois-tu vraiment que je ne puisse pas te redonner la vie dans ce qui est cassé dans ton propre cœur? Et Jésus fait ce travail dans le cœur de Marthe. Qu'est-ce que tu regardes? As-tu les yeux fixés sur ton mort? Ou est-ce que tu crois vraiment que je suis la vie et que je suis la résurrection? Le problème, là, Marthe, en ce moment, ce n'est pas Lazare. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu crois à ça, là? Est-ce que tu crois vraiment, Marthe? Tu en es où? Tu es en train de partir, là, dans tes pensées, dans tes raisonnements. Tu fixes tes yeux sur ton problème. Mais, hé, hey, Marthe, est-ce que tu crois que je suis la vie? Oh, Marthe! Vous voyez comment Jésus détourne et change les circonstances. Il est en train d'attirer Marthe non plus à se fixer ses attentions sur son problème, sur sa souffrance, sur ce qu'elle voudrait tellement voir changer. Mais il est en train de lui dire, hey, c'est moi la vie, c'est moi la résurrection, c'est moi ta solution. Arrête de regarder là, crois! Crois-tu ça? Et puis Jésus se rend au tombeau. Et on peut relire ces phrases du verset 39 au verset 44 tellement ils sont beaux, majestueux. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, on voit qu'il y a encore un attachement, hein. Lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est ici. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et là, on comprend la suite de la conversation. Il s'était quitté sur cette pensée-là. « Est-ce que tu crois que je suis la vie? Est-ce que tu crois vraiment en moi? Est-ce que tu as les yeux fixés sur moi ?» Et Marthe, elle était encore en train de fixer les yeux sur le mort. Et Jésus lui rappelle « Mais est-ce que je t'ai pas dit que c'est par la foi que tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaucais toujours. Mais j'ai prié à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Alléluia! Quelle puissance, quelle majesté! Jésus a eu la maîtrise des temps et des circonstances dans les moindres détails. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aura dit un petit peu avant, mais je suis très content, je me réjouis. Hein, je ne sais pas si vous avez fait attention à cette phrase de Jésus. Et c'est à cause de vous, et afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus s'est réjoui de laisser Lazare mourir. Jésus s'est réjoui de laisser Marthe et Marie dans ses incompréhensions, dans ses douleurs, dans ses souffrances. Jésus s'est réjoui de laisser tout ce laps de temps de travail intérieur. Parce que Jésus savait qu'au travers de ces remises en cause, de ces déstabilisations émotionnelles, dans ces déstabilisations de foi, la gloire de Dieu se manifesterait avec puissance. Amen. Cette histoire, c'est une véritable parabole vivante, mes amis. C'est une véritable parabole vivante. Et je voudrais juste retenir quelques enseignements courtement. Jésus a permis ces circonstances. Il les a permis. Afin que les gens de ce monde comprennent de leurs propres yeux qu'il est véritablement la résurrection et la vie. Suffit pas de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Facile de le dire. Mais les gens ont pu voir de leurs propres yeux qu'il l'est véritablement. Il dit et la chose existe. Il proclame la vie et la vie arrive. Jésus donne la résurrection à notre corps, mais il donne surtout la vie éternelle à l'âme. Amis, comprenez pas que ce n'est pas seulement une histoire d'un corps mort qui revient à la vie. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même est-ce qu'il mourrait ?» Jésus est en train de nous avertir que ce qui est le plus important, ce n'est pas que le corps meure, mais que l'âme aille en enfer. C'est en Matthieu chapitre 10, verset 28, que Jésus dira « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Et c'est lui qui a ce pouvoir, parce que c'est lui le juge. C'est lui qui a toute autorité. Et Jésus dit « Je ne suis pas venu pour détruire, mais je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour donner la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Et au travers de cette histoire, de cette histoire vivante, c'est une véritable parabole. Parce que le monde devait véritablement voir de leurs propres yeux que Jésus est véritablement celui qui donne la vie à l'âme. Il est véritablement celui qui a l'autorité. Ne craignons pas les circonstances de la vie. Ne craignons pas ce qui peut nous détruire émotionnellement. Ne craignons point ce qui peut nous mettre dans un tombeau. Craignons de ne pas avoir choisi Jésus comme étant la vie de notre âme. Craignons d'être négligents, de tenir Jésus à l'écart de notre vie. Non, parce que nous aurions plein de préoccupations matérielles et légitimes. Ça n'a pas de sens. Quand bien même est-ce que vous joueriez de tous vos exaucements de prière, cela ne dirait toujours pas que votre âme est sauvée. Ce n'est pas à n'importe qui que Jésus a permis une telle expérience. Il ne l'a pas fait avec n'importe qui. Comme on l'a dit vu en introduction, Jésus a pu faire cette expérience avec des gens avec qui il y avait une affection particulière. Les gens ont vu un Lazare qui aimait Jésus. Ils ont vu un Lazare qui est mort malgré les prières. Et ils ont vu un Lazare qui était ressuscité au nom de Jésus. Est-ce que c'est tous les hommes qui ont vécu ça? Non. Est-ce que c'est tous les hommes qui vivront ça? Non plus. Mais c'est seulement ceux qui ont cette relation d'affection avec Jésus qui connaîtront la résurrection et la vie éternelle. Tout le monde n'ira pas au paradis, non. Même si on le chante sur une belle mélodie, c'est pas la mélodie qui fait la vérité des paroles. Jésus accorde la vie éternelle à ceux qui croient en lui uniquement. Jésus l'a manifesté. Jésus a rendu cette réalité visible de leurs propres yeux. Mais les gens savaient aussi qu'il y avait une relation très forte entre Jésus et Lazare. Nous devons, aujourd'hui, construire cette relation forte entre nous et Jésus. Si nous voulons connaître la résurrection, si nous voulons connaître la vie, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une relation qui se construit et qui se construit déjà aujourd'hui. Cette histoire, c'est aussi une illustration visible d'une réalité spirituelle. Je voudrais l'introduire avec une autre image que Jésus a donnée en Jean chapitre 12, verset 24, où Jésus dit « en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, ne pourrit, il reste seul. Mais s'il meurt, s'il se décompose, alors il porte beaucoup de fruits. » Amis, nous devons faire comme Lazare et nous devons être comme ces graines. Nous devons accepter de mourir pour ressusciter. Nous devons accepter de renoncer pour retrouver. Nous devons abandonner pour découvrir. Nous devons aussi obéir pour voir la gloire de Dieu. Que se serait-il passé si les gens avaient refusé de déplacer la pierre? Que serait-il passé si les gens commençaient « Oh ouais, c'est bon Jésus, là tes histoires, c'est bon, la dernière fois tu nous as dit qu'il ne devait pas mourir, et puis tout, oh, c'est bon, on ne t'écoute pas. » Lazare ne serait jamais sorti. Et la gloire de Dieu n'aurait jamais été manifestée. Retenez bien toutes ces étapes. Nous devons mourir pour vivre. Nous devons renoncer, comme Marthe a fait, pour retrouver. Nous devons abandonner nos aspirations pour en découvrir d'autres. Nous devons obéir à Jésus afin de voir sa gloire se manifester dans notre vie. Comme je le dis, cette histoire, c'est une véritable parabole vivante, cherchant à nous faire voir des propres yeux ce qui est une réalité spirituelle. Je voudrais juste terminer avec cette question que Jésus lui-même a posée. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois qu'il est la vie? Est-ce que tu crois qu'il est celui qui veut te donner sa vie? Est-ce que tu crois qu'il peut faire ressusciter tout ce qui est mort dans ton cœur, mort dans ton âme? Crois-tu qu'il a cette autorité, cette volonté de te communiquer la vie? Et la semaine dernière, nous avons vu que Jésus, lui, a lui-même dit qu'il veut que les gens aient la vie, que ses brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Crois-tu vraiment cela? Je ne doute pas que tu n'as pas entendu, mais la question n'est pas de savoir si tu as entendu, n'est même pas de comprendre, de savoir si tu as compris. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu es en train de dire « Seigneur, je veux ta vie, Seigneur. Je veux ta vie en abondance. Je veux cette résurrection. Je veux cette action. Je veux cette puissance dans ma vie. » Est-ce que tu crois à cela? Il n'est pas question de savoir si on est bien disposé ou mal disposé. Lorsque Jésus a posé cette question à Marthe, elle était au plus bas. Tout était cassé dans sa vie. Tous ses espoirs, elle était dans l'incompréhension. Tout était noir dans sa vie. La vraie question, est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu acceptes? Si tu acceptes cela, tout n'est que question de foi et d'amour. Tout n'est que question d'abandon spirituel. Tout n'est que question de vie spirituelle. Ne cherchez pas midi à 14h. Ne regardez pas dans les circonstances. Évaluez-vous, posez-vous la question quant à votre foi, quant à votre amour, quant à votre abandon, abnégation, quant à cette vie spirituelle qui ne peut venir que du ciel. Crois-tu cela? J'espère que vous pouvez dire oui. Parce que la réponse à cette question se trouve au verset 40, que nous pouvons lire ensemble. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Ça, c'est votre réponse. Mais Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.